Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, une édition presque estivale de la Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille. Le Ravi, c'est dans tous les kiosques, c'est également un site internet, www.leravi.org. Avec nous aujourd'hui, François-Michel Lambert, bonjour.
Bonjour.
Pour une Grande Tchatche qui va faire le bilan des présidentielles, bien sûr, mais surtout des législatives, puisque François-Michel Lambert est élu de la 10e circonscription, nouveau député, juste avant la première session, demain en l'occurrence. Une tradition, François-Michel Lambert, c'est le portrait de l'invité, c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Dans le sillage de la vague rose, 18 verts sont parvenus à se faire élire à l'Assemblée nationale. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes le seul, François-Michel Lambert, à avoir tiré bénéfice de l'accord entre Europe Écologie et le Parti Socialiste. Dans la région, un écolo avait déjà réussi à s'inviter au Palais Bourbon, André Asquiri, en 97 dans les Alpes-Maritimes, mais il n'a pas renouvelé l'exploit le mois dernier. Vous êtes donc l'unique député vert en PACA, le premier jamais élu dans l'histoire politique des Bouches-du-Rhône. Vous avez défrisé au passage la moustache de Richard Mallier, le sortant UMP jadis qualifié par l'Express de député le plus actif de France, l'homme du travail du dimanche, membre de la droite populaire et extrême. Il aurait dû se méfier. Il faut toujours se méfier des étrangers, surtout ceux nés comme vous à Cuba. Vous n'êtes pas le fils de Fidel Castro, mais celui d'un ingénieur agronome travaillant pour l'ONU. Après 6 ans passés aux Caraïbes, vos parents reviennent en France à Montpellier. Lycéen, vous faites le coup de poing contre les fachos du GUD, vous avez 20 ans en 86, menez la fronde dans votre IUT contre la loi Devaquet et encaissez mal avec votre génération la mort de Malik Oussekine suite à la répression policière. Mais avant de virer au vert, vous plongez dans le jaune. Vous intégrez en effet, après votre service militaire, le groupe Pernod Ricard. Vous y restez 15 ans, d'abord comme responsable du développement packaging-emballage, puis comme celui de la logistique. Vous avez visiblement consommé sans modération, puisque encore aujourd'hui, vous parlez de la présence forte et protectrice de Paul Ricard, selon vous, un entrepreneur social attaché aux hommes et à la nature. Suite à cette expérience, vous devenez expert en développement économique auprès des collectivités territoriales et le référent national à Europe Écologie en transport de marchandises. En 97, vous tentez déjà votre chance aux législatives en Seine-et-Marne. Vous obtenez 2% comme Eva Joly, preuve qu'elle a encore de sérieuses chances de devenir présidente de la République. Vous vivez à Gardanne depuis 10 ans. Vous y avez retrouvé au conseil municipal un petit air de la Havane. Vous siégez dans l'opposition avec le PS et le Centre. Vous avez également organisé la fronde contre le gaz de schiste. Et bien entendu, vous restez toujours fidèle à la mémoire de Paul Ricard. Un verre, sinon rien.
François-Michel Lambert, une réaction à ce portrait ?
Oui, Malik Oussekine, c'est vraiment un moment très fort pour ceux qui ont connu ce drame, cette horreur. Pour moi, c'était à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas reculer, je dois continuer mon engagement pour refuser une telle société qui a mené à ce drame et à la mort de Malik. Voilà, c'est ce que je retiendrai de l'excellente biographie qui vient d'être présentée.
D'accord. Comme on le disait en introduction, on vient de passer les présidentielles, les législatives, vous êtes élu. Un mot peut-être sur ces présidentielles, vous vous retrouvez avec une sorte, je veux dire, vous avez gagné en quelque sorte sur tapis vert puisque votre candidate a fait 2% et vous retrouvez malgré tout avec 17 députés à l'Assemblée nationale avec un vrai groupe pour la première fois encore une fois. Un mot là-dessus ?
Bah, effectivement, les présidentielles est un schéma électoral très, très particulier qui ressemble un peu à une certaine désignation monarchique. Et donc on voit bien qu'à un moment donné, tout se cristallise autour de 2-3 candidats et les autres ont moins la possibilité d'exprimer le projet et la vision de la société. Donc nous avons travaillé très en amont avec ce contrat de mandature auprès du Parti Socialiste. Europe Écologie Les Verts a signé un contrat de mandature dès le mois de novembre qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ces 18 députés moins une, puisque Cécile Duflot, restant ministre, elle rend son mandat à sa suppléante socialiste.
Un contrat de mandature qui a été critiqué par un vert historique, Cohn-Bendit, une interview dans Libération, où il parlait des verts en des termes pas très, en tout cas assez fleuris. Il parlait plus que d'émulation, il parlait de compétition, ils ont vendu leurs âmes, etc.
Alors, il n'a absolument pas critiqué le contrat de mandature, il a juste exprimer le fait que le sentiment qui prévaut à l'extérieur, c'est qu'il y a une sorte de course aux Marocains. Mais ceci étant, moi je ne crois pas du tout, hein. Je pense qu'on était clair dès le départ qu'il y a une compétition comme au Parti Socialiste ou comme à l'UMP qui fait qu'à l'arrivée, ben, y a des déçus et il y en a d'autres comme moi qui ont la chance d'être élus députés. Et ce qu'il dit, c'est que l'image à l'extérieur, il faut qu'on fasse attention à ceci.
Enfin, il dit un peu plus que ça. Vous trouvez logique qu'avec 2% d'une candidate, vous retrouviez avec un groupe de 17 députés ?
Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette élection présidentielle qui est plus une démarche monarchique qu'autre chose, fait que les petits candidats sont écrasés. Hein. Je rappelle que Noël Mamère avait fait 5%. Est-ce que c'est exactement le poids que l'on pèse dans la société ? Je crois que c'est bien plus que ceci. Et ça démontre bien que les présidentielles n'ont pas de résonance.
Ça veut dire quoi ? Que le peuple vote mal ?
Pas du tout.
C'est que la si, façon... puisque 5%, c'est 5%, 2%, c'est 2%.
Non, le peuple ne vote pas mal. C'est que la façon dont est inscrite la 5e République, dont la 5e République a inscrit la présidence, fait que le peuple... se réfère à élire son roi, sa reine, et non pas à regarder le fond du projet, parce qu'on lui explique qu'il y a un homme providentiel. Depuis le général de Gaulle, en France, on nous dit qu'il y a un homme providentiel qui va conduire la France. François Hollande a très bien joué là-dessus et a réussi, et tant mieux, à être élu président de la
vous
République.
Vous êtes donc contre les élections uninominales ? Vous êtes député, vous êtes
élu. Oui, je suis contre ce système uninominal et plus encore le système présidentiel qui écrase tout le reste de la vie politique française. Tous les 5 ans, c'est celui qui est élu président de la République qui définit le sens politique de la France. Dans les autres pays, il y a bien des présidents de la République, mais ils sont élus par des modes ou des chancelières ou par exemple le premier ministre anglais qui sont élus par tout autre mode démocratique qui n'est pas un suffrage universel direct uninominal à 2 tours.
Ça s'appelle la 4e, ça. Ça,
ou d'autres systèmes autour des chambres, beaucoup plus de représentation du poids des chambres, notamment de l'Assemblée nationale.
Alors cette victoire historique, hein, des Verts, on le dit, c'est la première fois qu'il y a un groupe à l'Assemblée nationale. Elle est due à un accord, on en parle, avec le Parti Socialiste, à un accord de désistement réciproque. Vous vivez finalement un peu votre mai 81 en 2012. On a le souvenir de François Mitterrand embrassant sur la bouche le Parti communiste, le baiser qui tue, on l'a vu plus tard. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le partenaire socialiste, grâce auquel aujourd'hui l'écologie politique est dignement représentée à l'Assemblée nationale, finalement se passe de vous au demeurant ou ait envie de vous absorber? Est-ce qu'il n'y a pas un coût comme ça politique très, très cher à payer, ou en tout cas du moins une crainte, un risque, quelque chose à déminer pour vous?
Oui, le côté un risque, il y a toujours un risque, hein, dans la vie est faite de risques. Ceci étant, nous on se recale par rapport à notre offre, notre projet, notre vision de société, où on dit qu'il y a plusieurs crises, et pas qu'une crise financière, et notamment une crise écologique, une crise de finitude de la planète. Et notre offre, notre proposition, notre vision de société, eh bien, elle est en avance, alors que vous nous parlez du Parti communiste, et là, je vais être dur et clair, hein, ils sont, et on le voit aujourd'hui, où ils arrivent tout juste à 10 députés, où ils ont fortement reculé, et s'ils n'avaient pas eu un tribun comme Jean-Luc Mélenchon, qui se sont empressés d'assassiner, hein, s'ils n'avaient pas eu un tribun comme Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, ils ne feraient pas les 11%, mais ils feraient
un petit score. Vous voulez dire que les communistes ont trop cédé à leurs convictions personnelles par rapport aux socialistes ?
Non, c'est que les communistes n'ont pas changé leur logiciel, leur prisme de la vision du monde dans lequel on est et du 21e siècle. Aujourd'hui, les communistes nous proposent toujours les mêmes recettes dans une vision productiviste. Ils n'ont pas compris que la société, c'était certes, et moi je vais me battre pour ça, des grandes industries, mais aussi une multitude de petits artisans, de petits entrepreneurs qu'il faut soutenir. Là, on ne les voit pas, ils ne sont pas présents.
Alors les Verts sont, d'après vous, beaucoup plus pragmatiques. Qu'est-ce que vous pensez du débarquement de Nicole Bricq du ministère de l'écologie pour le commerce extérieur ? On a présenté ça comme une promotion. Certains disent que c'est pour rassurer Shell et les poursuites de forage au large de la Guyane. Là-dessus, les Verts ont murmuré un petit mécontentement, mais sans plus. C'est le début du pragmatisme ?
murmurer un petit mécontentement. Je n'ai pas la certitude, hein, si on regarde ce qu'a dit Pascal Durand, à peine intronisé, élu secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, il a surtout axé sur cette reprise des forages pétroliers en Guyane, hein, dans des prises de risques énormes. Et en même temps, le débarquement ou la promotion de Nicole Bricq, moi je pense que c'est une erreur lourde. À nous, les écologistes, d'aider le gouvernement et le Parti Socialiste à dépasser ceci, parce que sincèrement, c'est pas un signal fort envoyé sur la nouvelle vision de société que nous devons avoir, notamment la transition énergétique.
Alors François Hollande a nommé un ministre des Relations avec le Parlement, Alain Vidalis, et qui a déclaré mercredi que les écologistes, étant associés au gouvernement, auraient à l'Assemblée la liberté d'expression, mais pas la liberté de vote. Qu'en pense le nouveau député ?
Nous lui avons envoyé le contrat de mandature Europe Écologie Les Verts Parti Socialiste, ce qui semble un peu étonner tout le monde en France et notamment certains partenaires. Mais on fait ce que font dans d'autres pays anglo-saxons. On a couché sur le papier partout où on se retrouve et où on soutiendra le gouvernement lorsqu'il abordera ces sujets, mais aussi nos divergences, là où nous serons libres totalement de nos positions et de nos votes. Et pour y revenir, j'invite Monsieur le ministre à se référer à ça. Nous respecterons l'accord que nous avons signé. Depuis cet accord, on ne cesse d'y revenir. Je dirais même les journalistes, c'est leur job, ne cessent d'en parler et de dire est-ce qu'il sera tenu et tout. Pour ce qui est d'Europe Écologie Les Verts, il sera tenu totalement.
Alors Nicole Bricq, hein, pour être précis, donc, qui a été débarquée du ministère de l'Écologie à peine nommée, ex-sénatrice PS, elle était connue pour défendre des positions proches d'Europe Écologie sur le gaz de schiste, combat qui est le vôtre. Le fait qu'elle soit comme ça, vous êtes sur ce dossier-là, là, au démarrage, il y a une inquiétude qui s'exprime
Une inquiétude, probablement pas, mais sur une exigence. C'est plutôt là-dessus que l'on avance sur ce dossier, qu'on évacue rapidement ces dossiers, puisque ça concerne beaucoup de dossiers, et que l'on passe dans la transition énergétique. Je crois que nos partenaires socialistes cherchent à ménager la chèvre et le chou. Laissons le temps à ménager la chèvre, qui est les multinationales, mais pas trop longtemps, et surtout que la chèvre ne mange pas le chou et ne nous bouffe pas les territoires pour faire du gaz de schiste qui n'apporte rien à l'économie française, mais rien du tout.
Vous voulez dire que vous allez avoir un calendrier flexible par rapport aux doléances que vous avez formulées durant les présidentielles ?
Une exigence ? Mais moi je pense, et je suis bien placé étant nouvel élu, il y a un temps de mise en place. Je crois que c'est normal qu'il y ait un besoin de mise en place d'un gouvernement qui prend en charge énormément d'enjeux et de dossiers, et sur celui-ci très très vigilant, mais une confiance. Moi j'ai confiance dans l'accord que nous avons signé avec Europe Écologie et Verts, a signé avec le Parti Socialiste, notamment sur l'arrêt d'exploitation de tout gaz et pétrole non conventionnel.
D'accord, on revient un petit peu en arrière, on parlait du front de gauche, et ça peut être intéressant, je pense, de s'y arrêter un peu, en particulier pour l'effet de balancier entre la force que vous représentez, aujourd'hui, au Parlement, la deuxième force de gauche politique, et qui remplace finalement le rôle que jouait autrefois, en tout cas pour l'instant, le Parti communiste. Est-ce qu'ils n'ont pas payé, est-ce que le front de gauche n'a pas payé aussi le prix de l'indépendance, c'est-à-dire le refus de négocier en avance avec le Parti Socialiste d'Estrapontin, ce que vous avez su faire?
Le Front de Gauche paye deux choses. Le Front de Gauche paye ce côté artificiel, parfois, entre le Parti de Gauche, la gauche unitaire, le Parti communiste, qui s'allient pour des élections, mais dont on sait qu'il y a de grandes différences et sur lesquelles ils n'ont jamais clarifié leur position. J'en prends une hyper symbolique, mais on peut en prendre beaucoup, hein. C'est le nucléaire. D'un côté, vous avez un Parti communiste qui exige plus de nucléaire, plus de recherche sur le nucléaire, et de l'autre, un parti de gauche qui nous dit sortie du nucléaire avec une planification, et n'ont su se retrouver que sur un ersatz qui s'appelle « on fera un référendum sur le nucléaire, comme ça on n'en parle pas ». Voilà, ça c'est le premier point. Et le second, ben effectivement, je crois qu'on est dans le 21e siècle, et aujourd'hui, eh bien, il faut être clair face aux électeurs. Et nous, dès novembre, on était clair, nous serons aux côtés du Parti Socialiste dans un cadre défini qui était toujours, j'y reviens, ce contrat de mandature. le Front de Gauche qui se réveille le 7 mai en disant « Bon, ben nous, on veut bien travailler avec vous, il faut commencer à réfléchir, à nous laisser des circonscriptions pour qu'on puisse avoir un groupe à l'Assemblée parlementaire. » Les Français n'en veulent plus. Le Parti Socialiste, Europe Écologie, Les Verts
Rectification, ce n'est pas les Français qui ne veulent pas. C'est que vous avez passé un accord sur le tapis vert. Le Front de Gauche est arrivé quatrième de ces présidentielles.
Non, le Front de Gauche n'est pas arrivé quatrième. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé quatrième.
Oui,
le Front de Gauche,
Jean-Luc Mélenchon...
c'est tout le problème de la présidentielle. Ouais, où on confond le score d'un candidat avec ce que représente le parti dans lequel il est.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a une dichotomie entre François Hollande et le Parti Socialiste, c'est ça?
C'est
la même chose. Pourtant, un candidat ne se présente qu'avec une valise qui s'appelle son parti.
Non, François Hollande a toujours exprimé qu'il dépassait son parti dans le cadre de sa campagne.
Dès le premier tour,
il a dit j'ai des primaires de la gauche. Bon, certes, il y avait le PRG, et il a dit je dépasse le cadre du Parti Socialiste. D'ailleurs, il s'est affranchi de pas mal de choses, hein, du programme pur Parti Socialiste. C'est le contrat de François Hollande avec les Français qui a été proposé et qui a été validé par les élections. Mais je reviens toujours à notre système d'élection présidentielle, qui est un système monarchique, nous amène à ce qu'un homme se dise pouvoir dépasser le cadre d'un parti.
On essaiera quand même de bien s'expliquer avant la fin de l'émission. Qu'est-ce que veut dire un système monarchique quand c'est le peuple qui choisit et qui vote? Là, il y a comme quelque chose, une espèce d'incompréhension. On va poursuivre, mais on arrivera petit à petit à s'expliquer là-dessus.
Demain, donc, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous regrettez malgré tout l'absence de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ça aurait été sa défaite? Elle a un bon nom.
Je regrette l'absence de Jean-Luc Mélenchon pas plus que je regretterais l'absence de tout autre candidat de qualité.
Dans le combat symbolique qu'il a voulu mener contre le Front National.
Et qui est-ce qui a gagné?
Un socialiste.
Et ben voilà. Donc moi, je suis très content que ce soit un socialiste qui arrive de la circonscription d'Hénin-Beaumont. Parce que les socialistes sont tout autant à gauche que Jean-Luc Mélenchon.
Deuxième question, est-ce que vous regrettez l'absence de François Bayrou dans cette assemblée, où vous dites non
Là, c'est différent parce que il y avait des enjeux. Donc François Bayrou, je pense qu'il y avait, il doit y avoir une représentation de ce centre. Ben, on y parle, hein, 9% des voix, et ils ont 2 ou 3 députés. J'arrive pas à trop me souvenir, mais eux, ils doivent bien s'en souvenir. Qu'ils s'appellent François Bayrou ou qu'ils s'appellent autrement, il me semble que 9%, un électeur sur 10 quasiment du 22 avril ne se retrouve plus à l'Assemblée nationale. Ça pose question sur le système dont on parlait tout à l'heure.
Vous êtes sur la ligne de Daniel Cambanet, qui a déploré que le Parti Socialiste ne se retire pas au profit de François Bayrou, mais qui n'a pas déploré que le Parti Socialiste ne se retire pas au profit de Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez que là, il y avait un geste à faire pour sauver le soldat Bayrou?
Mais je ne sais pas si c'était le soldat nommément François Bayrou qu'il fallait sauver. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser en friche tout un pan de ceux qui ont apporté un soutien à François Hollande, qui s'appelle le centre, avec leurs 9%, même si on sait que des voix sont parties sur le candidat Sarkozy. Une grande partie, c'est des gens qui ont voté François Bayrou, voulaient de François Hollande président de la République, et aujourd'hui se retrouvent sans porte-voix à l'Assemblée nationale. Ça pose question, parce que le vide n'existe pas en politique. Qui va remplacer cet espace?
D'accord. Alors, Nicolas Hulot, qui était votre candidat de cœur
De cœur, non.
Non,
de raison.
De raison. Allez,
étiez plutôt, pour les auditeurs, vous étiez plutôt
Nicolas
pour Nicolas Hulot,
très
plutôt
clair.
Que Eva Joly.
Très clair, mais très clairement, oui.
Alors, il a voté Jean-Luc Mélenchon.
Alors, et j'avoue que parfois il y a des choses qui me dépassent. Et,
le seul, cela dit, on le sait, hein, les
étudiants ont montré qu'une
partie 1%. De l'électorat écolo a été séduit par le discours sur la planification écologiste.
Ça a l'air de vous catastropher.
Comment expliquer ça? Pourquoi les Europe Écologie Les Verts n'a pas su capter une partie de son électorat qui a préféré aller vers Mélenchon qui leur parlait de planification écologique?
Peut-être parce qu'on a voulu porter trop de messages à la fois et que si nous restons sur les discours, moi j'aime bien ce que nous dit, que propose Alain Lipietz, hein, il nous parle des fondamentaux, c'est-à-dire que les écologistes ont compris et disent à la société que les crises vont se succéder parce que tant qu'on n'attaquera pas le fond du problème, ce sont les enjeux écologiques, pour faire simple, la finitude de la planète, les ressources ne sont pas renouvelables indéfiniment et il y a de plus en plus de demandes. Donc, on n'est pas sur ces fondamentaux en disant qu'en attaquant, en réglant ce problème, on peut répondre aux d'autres enjeux, notamment, par exemple, l'emploi, le pouvoir d'achat, la perspective que le citoyen peut avoir. Et à côté, une réponse que moi je trouve très basique, parce que la planification, je ne crois pas que la nature se planifie, mais la nature, au contraire, elle se nourrit de diversité, de biodiversité. Mais bon, une réponse basique, planification écologique, a apporté une résonance avec qui plus est un tribun. On revient toujours, et si vous voulez, on en débat, de ce que c'est qu'une élection présidentielle aujourd'hui en France, qui est plus l'élection d'un roi qu'autre chose.
Alors cela dit, et là vous vous retrouvez comme...
Tout en respectant le président de la République, François Hollande, hein, il fonctionne tel que les règles lui sont proposées. François Mitterrand avait été très clair et avait critiqué, je vous ai coupé, le système mis en place par le général de Gaulle, mais on voit bien que François Mitterrand a été le plus performant à utiliser le propre système qu'il dénigrait. Donc je crois que François Hollande est de la même trempe que François Mitterrand pour ceci. Je ne pense pas qu'il accorde une idée du sens démocratique qu'est l'élection présidentielle, mais il l'a utilisé, ce qu'on lui demandait de faire dans les règles démocratiques, dans les règles de la République, la 5e, pour se faire élire à la présidence de la République. Ça ne veut pas dire qu'il valide le mode électif du président de la République.
Oui, je veux parler de la fameuse coopérative des écologistes à laquelle appelle Daniel Cohn-Bendit, qui définit justement de Mélenchon à NKM, dans l'aile gauche de l'UMP.
NKM, ex-porte-parole de Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle. Quand même.
Cela dit, finalement, à Gardanne, au deuxième tour, du front de gauche au MoDem, les gens, on a appelé à voter pour vous.
Même au-delà du MoDem. Pas une partie de l'UMP, mais Génération Écologie, dont on sait un positionnement...
Qui a été à un moment, effectivement, les Bleus.
Droite, voilà, et après d'autres. Oui, à un moment donné, Daniel Cohn-Bendit a tout à fait raison de proposer cette coopérative. Les Français en ont un peu marre du bien, mal, blanc, noir. Et la situation est telle que la capacité à se rassembler, à échanger, à progresser. Puis après, il y a des élections où peut-être on se sépare le temps de l'élection, le temps du suffrage par rapport à l'homme ou la femme en capacité de porter une réponse et comment il aborde la réponse. Mais c'est ni plus ni moins que tout ce qu'on appelle des think tanks. Vous allez regarder les think tanks, des fois, c'est assez arc-en-ciel, hétéroclite, ceux qui sont dedans. Et puis on revient le temps des élections où on revient sur un format qui est proche d'un parti, mais qui est surtout un homme, une femme qui se présente. Ce qui parfois aussi me pose question, parce que je crois que la proportionnelle est nécessaire.
En même temps, les vrais gens, au-delà des think tanks, eux, ont plébiscité durant ces dernières élections le bipartisme. Ils voulaient un homme, un parti, avec un programme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit la disparition des radars de François Bayrou et de son...
Ils n'ont pas plébiscité, bien au contraire. On est toujours, si on regarde bien, je sais pas exactement les chiffres, mais ça doit être un électeur, un sur trois... inscrit, qui a voté ou pour l'un ou pour l'autre, puisqu'il y a les abstentionnistes, il y a eu les voix qui sont portées par ailleurs. Donc la France n'est pas du tout dans le bipartisme. C'est le système tel qu'il est qui nous fait un prisme, une loupe, et qui nous fait croire qu'on va vers le bipartisme, mais absolument pas.
Alors il se trouve que le PS a quand même la majorité absolue, ça c'était inquiétant pour vous ? Vous auriez préféré que ça soit plus équilibré pour pouvoir un peu plus faire entendre votre voix ? Ou finalement vous dites, c'est le jeu institutionnel ?
Alors, la première chose, c'est le jeu institutionnel amène le PS à avoir la majorité absolue. C'est un fait, je le respecte. Ceci étant, je pense que, comme dans la nature, moi je dis la politique, c'est comme la nature. Elle est riche, elle est en capacité de créer comme la nature si elle est diverse. Donc la biodiversité est nécessaire.
Il y a aussi le darwinisme qui a bien décrit la nature et également un petit peu le monde politique, non ?
Non, le darwinisme, si on le regarde bien, il s'appuie sur l'interaction entre de multiples acteurs dans une nature et qui fait la richesse et qui fait le développement avec effectivement des sélections. Et il y a des parties qui vont disparaître et d'autres qui émergent. Et on le voit bien en ce moment, quand les vers sont nés en 1984, quel était le poids des vers et quel était le poids du Parti communiste. Aujourd'hui, le Parti communiste continue à exister, mais il existe à la même hauteur que les écologistes. Voilà, ça c'est l'évolution, mais dans une diversité. On n'est pas dans ces pays où je pense que la démocratie souffre, comme aux États-Unis, où on est avec deux partis en bipartisme total. Et c'est bien en France, me semble-t-il, qu'on arrive à générer de nouvelles offres et de nouvelles réflexions sur la conduite politique, sur les projets politiques, sur la vision du monde, à tel point qu'aujourd'hui, tout tourne autour de François Hollande, sur sa capacité au niveau de l'Europe, à générer de nouvelles visions, de nouvelles offres dont les partenaires des autres pays se disent « Ah ben oui, finalement, on n'y avait pas pensé. »
Alors justement, je ne sais pas si l'exécutif est une meute, hein, mais à sa tête, on a François Hollande. Et au cours de la campagne...
Il n'est pas à la tête de l'exécutif. À la tête de l'exécutif, c'est Jean-Marc Ayrault.
C'est Jean-Marc
Ayrault. D'accord. C'est vrai. Il faudra que je révise mes cours constitutionnels. François Hollande, au cours de sa campagne des primaires, n'est pas apparu comme le candidat qui était le plus sensible aux thèses écolo, objectivement.
Alors, tant mieux.
Tant mieux. Vous avez bon espoir de le convertir, de le convaincre. Il y a quand même une inconnue. Il a peu promis de choses. Et est-ce qu'il va être sensible ? Est-ce qu'il va se laisser entraîner sur votre terrain ?
Alors, quand je dis tant mieux sur François Hollande, c'était sur le sens que il a été transparent. Il a dit, moi, je vois la vision et le projet de société, et il a pas surjoué l'écologie comme on avait pu le vivre en 2007, hein, avec les conséquences derrière de cette remise en cause au fur et à mesure de son mandat par Nicolas Sarkozy. C'est ça mon tant mieux. C'est tant mieux, nous sommes dans la transparence. Maintenant, à nous d'être force de proposition, d'être en capacité de démontrer qu'il faut orienter différemment, et ça sera auprès de l'exécutif, donc auprès de Jean-Marc Ayrault, d'orienter différemment la politique vers une prise en compte des enjeux écologiques pour répondre à tous les autres enjeux, les enjeux financiers notamment, etc.
La grande tchatche.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous François-Michel Lambert, député, tout nouveau député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. On parlait présidentielle, on parlait législative, et une question, finalement, ce qu'il manque aux Verts avec leurs 2% au présidentiel, pour rappeler les chiffres quand même s'ils sont cruels, est-ce que c'est pas un électorat stable, fixe, que l'on peut retrouver élection après élection ? Parce que finalement, vous arrivez avec un électorat qui est extrêmement volatile, qui change, les européennes ne sont pas les mêmes élections que les municipales, donc c'est pas le même électorat, les présidentielles également. Comment faire pour construire un programme sur le très long terme avec ça ?
Je pense que c'est à nous aussi, je rappelle que Europe Écologie Les Verts est un nouveau parti qui a à peine deux ans.
De moins en moins nouveau quand même.
Si, si, totalement nouveau et bien plus que tous les autres, hein, qui a 2 ans et qui justement a apporté une nouvelle approche et une nouvelle vision, mais aussi une certaine déstabilisation pour les électeurs, de comprendre en interne, on présente Eva Joly, après on retrouve une Cécile Duflot, un Pascal Durand, c'est-à-dire des personnalités fortes. Et donc il y a au niveau de l'électorat, ils peuvent se poser des questions, et c'est là où on n'arrive pas à le stabiliser. Moi, ce que je constate, c'est que quand même on a des opportunités, donc ça sera à nous et on se donnera d'autres rendez-vous. Mais aujourd'hui, par exemple, prenons juste un cas, les Bouches-du-Rhône, on se retrouve en moins d'une semaine, 10 jours, avec deux députés, un député européen qui s'appelle Karim Zeribi, par le fait qu'il était sur la liste socialiste, mais entre-temps il nous a rejoint.
Il remplace Vincent Payon.
Voilà, devient député européen. On connaît Karim, il est implanté dans les quartiers nord de Marseille, où on nous disait qu'il n'y avait rien à faire sur place pour les écologistes, les écolos, vous êtes bons pour être dans les quartiers bobos. Ben non, il travaille, il a eu des résultats aux législatives d'ailleurs, avec un très bon score, et il continuera, il y aura un député européen de, ces, de ce secteur, et moi-même, regardez où est-ce que j'ai été élu, là où personne ne m'attendait,
sur un Gardanne. On refera volontiers une émission où vous, je vous donnerai volontiers une heure pour me citer une seule action écologiste de Karine Deribi dans les quartiers nord. Là, ça serait quand même assez fantastique, hein, parce qu'il a été toujours contre les propositions écologistes pour les centrales nucléaires, etc., etc.
On reprendra une heure parce que pense qu'on est un peu dans la caricature. Maintenant, je reviens sur François-Michel Lambert.
Nous l'avons reçu ici même.
On revient sur François-Michel Lambert, qui lui est élu sur une circonscription qui va de Gardanne jusqu'à Allauplan-de-Cuques. Et dans le bassin minier, bassin industriel, mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un écologiste qui défendra, moi je l'assume totalement, une industrie moderne, puissante. Et là, on démontre que dans ces secteurs, nous pouvons nous ancrer. Je vais m'y attacher. Et après, notre socle deviendra plus élevé que 2 points.
Alors on vient aux Bouches-du-Rhône, on va parler de l'industrie juste après. Peut-être quand même une question. On a reçu ici Richard Mallier il y a quelques mois.
Quelle chance.
C'est un honneur. Le député le plus actif de France, vous imaginez. Il a un profil quand même très différent de vous. Comment on passe d'une circonscription d'un député aussi différent l'un après l'autre? C'est le fait de la sociologie a changé.
C'est simple.
C'est le fruit de l'échec. Ou alors, vos adversaires vont pas manquer de souligner que vous avez gagné suite à une triangulaire, que le Front National, que Richard Mallier a largement dragué et a obtenu un trait au score, et que si on cumule le sien et celui du Front National, vous êtes presque minoritaire dans votre circonscription.
Alors oui, les mathématiques disent ça, je ne le nie pas, mais le Front National, moi je ne suis pas député depuis 10 ans. S'il y a un tel Front National dans une circonscription quand on est le député le plus actif, il est temps de se poser des questions. Je crois qu'il se les est posées lundi matin au réveil lorsqu'il a vu qu'il n'avait plus de mandat, puisque je rappelle qu'il a quand même aussi perdu son mandat de conseiller général qui était imperdable. Donc ça fait 2 coups sur coup qu'il perd. Il a perdu toutes les communes sauf son fief de Bouc-Bélair, qui sont tous passés à gauche ou à un centre modéré bien loin de ses valeurs, avec un gros guillemet. Donc ça, c'est la réalité. Comment moi j'arrive à gagner? Donc oui, il y a les mathématiques avec la triangulaire, mais il y a aussi et surtout, ne l'oubliez pas, que quasiment tous les maires me soutenaient directement ou indirectement et appelaient à voter ou faisaient en sorte que je puisse être le nouveau député pour leur permettre de fonctionner, pour leur permettre de respirer, pour leur permettre de travailler tout simplement. Que les conseillers généraux, les 4 conseillers généraux, puisqu'il y a 4 cantons qui sont concernés par la circonscription, tous socialistes, communistes, ont appelé derrière moi à ma victoire, le sénateur également. Il y avait besoin dans cette circonscription, et c'est ma nouvelle approche, un virage à 180 degrés, c'est ce que j'ai proposé, c'est ce que je vais mettre en œuvre. C'est au service des élus locaux et non pas devant eux pour se récupérer la gloire de ce que les autres ont fait, mais plutôt donner aux élus locaux et à travers eux aux citoyens des réponses au quotidien.
Avec cette large, très large coalition autour de vous, est-ce que vous n'allez pas avoir un mandat en quelque sorte sous influence, puisque ça va assez large? Vous allez avoir une latitude de faire un peu ce que vous souhaitez?
Oui, vous avez raison, je vais être sous influence, mais une influence que vous n'attendez pas. Moi, c'est l'influence d'être en phase avec ce que j'ai donné, ce que j'ai dit, la proximité, être au plus près. Je commence par les maires, les élus locaux, mais aussi des citoyens, et non pas une mise en avant. J'ai une symbolique que j'ai dite et redite, c'est vous n'aurez pas ma photo sous tous les ponts d'autoroute, pour ceux qui viennent dans le secteur de Gardanne, et encore pour quelques temps, ils voient des portraits de 2 mètres de Richard Mallier, c'était sa façon de faire de la proximité. Moi, ça sera une toute autre façon de faire de la proximité. Oui, donc j'ai bien un engagement et une obligation.
Il a beaucoup légiféré également, Richard Mallier, rendons-lui quand même 2 ou 3 choses.
Plan de campagne, le travail dimanche.
Voilà, comme ça, maintenant, le dimanche, il sait où aller se promener.
Cela dit, je vous ai entendu sur des positions assez prudentes. Par exemple, plan de campagne, vous ne dites pas qu'il faut revenir sur l'autorisation. C'est un fait, c'est ça, ça existe, plan de campagne. Alors, il ne faut pas généraliser, mais vous ne dites pas non plus qu'il faut interdire le travail dimanche à plan de campagne. Oui ou non?
Ah, moi, je pense qu'il faut revenir sur la méthode qui a amené à ce que à plein de campagnes soient ouvertes le dimanche. Maintenant, je suis toujours à travailler dans la concertation. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a plus éteinte la voix de ceux qui expliquaient et exprimaient toutes les questions que l'on doit avoir sur le travail du dimanche et surjoué la voix de ceux qui disaient ça va créer de l'emploi, de l'économie. Moi, j'ai toujours pensé que 10 euros vendus le dimanche ou 10 euros vendus le lundi, c'était du chiffre d'affaires.
Bon, conséquence, est-ce que vous pensez qu'il faut interdire le travail le dimanche à plein de campagnes ? Remettre cette zone dans le droit commun ?
Je pense que cette zone a une particularité et elle a un équilibre économique qui nécessite qu'elle soit ouverte le dimanche, mais je trouve que c'est trop. Et qu'il y a un moment donné, on doit se poser des questions pour, au contraire, revenir. Il y avait des formats précédents dans cette zone. Il y avait certains magasins qui n'étaient pas ouverts le dimanche. Maintenant, tout le monde. Donc, il faut y revenir à un moment donné ou à un autre.
Donc, vous êtes contre l'ouverture le dimanche ?
Moi, je pense que ce type de zone... aujourd'hui, c'est un fait. C'est comme tout.
Enfin, c'est un fait. Il y a aussi une loi qui s'appelle la loi Littoral. Quand vous avez un établissement qui génère également du chiffre d'affaires et de l'emploi, la loi est la loi. Ce n'est pas une base de négociation. Le restaurant est détruit. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture le dimanche ?
C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il y a une loi. Il y a un fait. C'est qu'il y a une loi qui a un équilibre économique en place pour que, par rapport à cette ouverture du dimanche. Donc, on repart de cette base, non pas dans une position idéologique, mais dans une idée d'avancer pour vérifier que l'on ne peut pas revenir en arrière. À quel niveau ? Je ne sais pas. Parce que moi, ce que je sais, c'est que ce qui est ouvert le dimanche à plein de campagne tue ce qui est ouvert le dimanche dans les villages de ma circonscription.
D'accord. J'entends, moi, que vous êtes favorable au retour dans le droit commun de plein de campagne, mais que vous ne voulez pas l'affirmer comme ça par souci de concertation. Donc... vous êtes député depuis 24 heures, mais vous êtes déjà assez prudent dans la formulation.
Mais non, je vous invite à venir me suivre sur tous les dossiers. Je suis sur la concertation parce que j'ai au moins une seule certitude, c'est que je ne suis pas sûr de tout, de ce que je suis le seul à affirmer. Donc à un moment donné, moi, je serai pour la fermeture le dimanche, je le dis clairement. Mais d'un autre côté, je vous le redis, il y a un équilibre économique en place, il y a une loi en place. Je ne vais pas légiférer d'un seul coup pour tout fermer avec une prise de risque, mais aller vers la concertation.
Un mot, encore une fois, et puis on passe à autre chose, sur l'extrême droite, donc très présente dans cette séquence électorale, hein, présidentielle, législative, très présente en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Bouches-du-Rhône aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez beaucoup été attaqué sur la question du droit de vote aux étrangers, aux élections locales. La droite vous reproche le laxisme en matière de sécurité. Vous répondez quoi ? Vous répondez emploi ? Vous répondez... comment on lutte contre l'extrême droite ?
La droite ne nous a pas reproché un laxisme sur la sécurité, je ne l'ai pas entendu. En tout cas, en ce qui me concerne. Il n'y a pas de laxisme, bien au contraire, puisque à un moment donné, j'y reviens, parce que quelque part, j'avoue, c'est un petit plaisir. Mais quand on est député, qu'on vote en avril 2011 une loi interdisant l'affichage sauvage et que l'on rentre dans sa circonscription, alors apparemment, ce n'est pas lui qui colle les affiches, certes, mais bon. Et il doit bien se poser des questions et qu'on colle à tout va à ces affiches. Je crois qu'on envoie des messages très négatifs de « je fais la loi, je demande aux autres de la respecter, mais moi je ne la respecte pas. Moi je ferai la loi, je la respecterai. » C'est déjà un début et c'est là où on n'est pas laxiste. Sur la deuxième question autour du Front National et qui attend des réponses, ces réponses, elles ne sont pas sur la sécurité. Je crois que...
Il y a une demande quand même. Les électeurs ont une demande très très forte sur la sécurité dans tout le département et au-delà, le département limitrophe également.
Non, je crois que réduire, je vais être très clair, réduire l'électeur du Front National à une demande sur la sécurité, c'est la certitude d'apporter la mauvaise réponse. L'électeur du Front National, très souvent, alors après, il faudrait regarder les uns après les autres, mais très souvent, c'est aussi l'insécurité, mais l'insécurité... global,
le sentiment
non pas d'insécurité sur sa personne physique, mais d'insécurité sur son avenir, l'avenir de ses enfants. Et c'est là où nous devons apporter des réponses. Aujourd'hui, ça fait maintenant bientôt 30 ans et ça s'est accéléré ces dernières années où on nous dit qu'on est dans la pire des crises et que c'est peut-être la fin d'un monde, la fin d'une qualité de vie. Qu'est-ce que vous voulez que les gens entendent en face et prennent comme réponse du basique comme il suffit de sortir de l'euro, on revient au franc et tout sera comme avant. Voilà.
En même temps, Jospin avait amené une certaine forme de prospérité et avait perdu les élections sur la sécurité.
J'adore parce que comme ça, on va pouvoir parler de cette fameuse élection qui est justement un instant d'élection monarchique et les gens n'ont pas senti en Jospin non pas son projet ni ce qu'il avait fait, mais ont senti qu'il ne voulait pas de Jospin comme entre guillemets une sorte de roi. Que nous n'avons plus depuis 1789.
Et je reviens aux Bouches-du-Rhône, je reviens au territoire de votre circonscription, et puis je reviens à ce paradoxe, peut-être, ou peut-être pas, vous allez nous le dire, d'un écolo élu dans une circo, une terre industrielle en crise. Il y a une boîte en difficulté, et pas la moindre, Rio Tinto. Il y a ce qui se passe au niveau de la pétrochimie. Énergie du passé, vous allez nous dire, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ?
Il y a même une raffinerie thermique.
Non, il n'y a pas de raffinerie thermique, il y a une centrale thermique qui est au charbon. Alors, vous savez, je pense que j'ai eu un soutien large de tous ceux qui sont directement ou indirectement, mais de façon proche, liés au dossier de l'usine Pechiney d'alumine. Parce que qu'est-ce que je leur ai proposé ? Je leur ai proposé, on va changer la façon de faire. On va aller vers la concertation. On va se mettre tous autour de la table. Cette usine, ce n'est pas qu'un changement de propriétaire. C'est aussi des enjeux, notamment au niveau environnemental, avec la fin du rejet des boues rouges en Méditerranée.
Dans les Calanques.
Dans les Calanques, etc. etc. Y a des tas d'enjeux qui sont face à eux. Un développement économique, un nouveau modèle économique, des investissements, des problèmes sur l'énergie. Bon, j'en passe. Et jusqu'à présent, c'était des réponses au coup par coup dans l'urgence et certes par le monsieur Mallier quand il était député, peu par l'équipe municipale en place qui a toujours plus vu la mine que l'alumine. Eh bien, moi, je pense que tout ceci, on peut travailler en concertation en mettant autour de la table, bon, je ne vais pas vous faire la liste de tous les acteurs qui devraient être autour de la table, pour regarder les enjeux et la vision, ce vers où on va, par rapport à cette usine qui fait de l'alumine de spécialité unique au monde et qui se retrouve dans les écrans de téléviseurs que nous réimportons, c'est-à-dire que qui partent dans le monde entier. Donc on a cette fierté qu'en France on peut sortir des produits uniques au monde et que l'on peut continuer. Et si on se met tous autour de la table pour renforcer cette industrie, on sera tous gagnants plutôt que des réponses ponctuelles. Et ça, c'est ma touche.
C'est la méthode. On peut concerter sans être écolo. Mais en tant qu'écolo, quel est votre apport dans
une problématique
industrie, de crise industrielle, de reconversion ou de soutien, de défense ? Par exemple, ces rejets, vous dites, bon, d'accord, il y a des rejets dans les calangues, mais
il faut renforcer
l'industrie. Il y a l'emploi aussi.
Comment vous voyez les écolos ? Moi, les écolos ont un projet de société. Nous, par exemple, sur ce qui est l'industrie, je vais m'y atteler en tant que député au niveau national. Je vais travailler sur une industrie qui puisse répondre tout à la fois aux trois enjeux du développement durable, donc être économiquement solide, répondre aux enjeux d'environnement et surtout les anticiper, puisqu'on sait les exigences qui sont de plus en plus fortes, mais on peut les anticiper, et socialement, qui apporte de l'emploi, mais aussi sociétal, qui n'impacte pas ou peu les riverains, ceux qui sont là. Et ça, c'est la vision d'un écologiste. Et pour faire travailler sur ces trois-là, il n'y a pas d'autre moyen que la concertation plus que de l'affichage de communication à coup de « c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ci ». La concertation, je efface celui qui fait la concertation puisqu'il y a tout le monde autour de la table. La réponse, comme Richard Mallier l'a faite à un moment donné en bloquant une erreur administrative qui a mené un triplement des taxes de rejet en mer de Rio Tinto et donc c'était plus supportable. Il le fait tout seul dans son coin et après il communique. C'est bien la différence.
Vous êtes plus redressement productif que décroissance.
C'est
il y a un ministère, un nouveau ministère qui porte son...
C'est la même chose.
Je ne suis pas sûr que vous soyez totalement d'accord avec Montebourg.
Ah, ça, c'est autre chose. Mais le redressement productif, dans un cadre de développement durable, où on prend bien en compte tous les enjeux environnementaux, et notamment la finitude de la planète, j'y reviens sans
cesse.
Est-ce
que vous pensez que votre partenaire socialiste a vraiment rompu avec cette idée que ce qui importe avant tout, c'est la croissance et tout va aller bien?
Ben non, sinon il serait à Europe Écologie Les Verts.
D'accord. Et concrètement, cette pensée-là, comment elle va se traduire au contact de dossiers comme ça avec des boîtes menacées qui font...
Ben, concrètement, eh bien, c'est justement peut-être avoir une approche plus globale de tous les enjeux et pas regarder... Je pense que le Parti Socialiste, vous avez parlé en préambule du Parti Communiste, a encore... des réflexes, et je le comprends, qui sont tournés vers une réponse immédiate par rapport aux habitants, aux salariés. Donc c'est très souvent des réponses d'emploi avec après des difficultés à pérenniser ceci. Nous, on leur dit, on peut faire des emplois pérennes pour 20, 30, 40 ans. On pourrait balayer aussi les économies d'énergie, les énergies renouvelables. Ça, ce sont des emplois qui tiennent dans le temps.
Alors, vous avez aussi dit votre volonté, bon, on en parle, de faire de la politique autrement. Alors, bon...
Ah bah, moi, j'ai le plaisir d'être le seul élu des Bouches-du-Rhône, signataire de la charte Anticor. Hein, la charte qui a un engagement d'éthique par rapport à justement la politique et par rapport à sa fonction de notamment il y a une charte spécifique pour les députés où on s'engage au non cumul des mandats, mais c'est inscrit dans nos gènes, à la transparence des fonds qui transitent par un député, parce qu'il y a pas mal de fonds, et je tiens à dire que en décembre 2011, François de Rugy, qui est aujourd'hui le président de notre groupe écologiste, avait présenté une proposition de loi sur la transparence de la vie publique avec 77 000 signataires en 48 heures pour vous dire qu'il y avait vraiment une demande derrière du citoyen et que c'est l'UMP qui a refusé et qu'aujourd'hui on est incapable de savoir le montant, pour revenir toujours au même, le montant que le premier questeur de l'Assemblée nationale sortant, M. Mallier, disposait en tant que réserve parlementaire et encore moins à qui il les a distribués ces fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre République française, il y a encore une opacité totale de flux publics, de fonds publics, notamment auprès des députés. Ceci va changer, c'est dans la charte. Après, il y a aussi dans cette même charte, par rapport au lobby, une capacité à mettre une distance par rapport au lobby. Et les lobbies sont des deux côtés. Hein. Vous pouvez imaginer aussi qu'il y a des lobbies environnementaux, environnementalistes, très, très exigeants, savoir mettre la distance parce que c'est dans la vision pour le citoyen, pour le développement de notre société.
Et que pense le nouveau député dans les Bouches-du-Rhône de la situation politico-judiciaire qui pèse sur les épaules du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, les fameuses affaires?
Alors, on va croire que c'est une langue de bois. J'avoue que depuis 3 mois, je n'ai pas regardé les derniers développements parce que j'étais sur ma circonscription à travailler et à échanger avec les élus locaux qui, entre nous, les affaires politico-judiciaires de Jean-Noël Guérini, ils m'en ont jamais parlé. Ce dont ils m'ont parlé, c'est leur problème, le logement en tout premier lieu, et la capacité que j'aurai à être le relais entre le national et leurs problèmes. Ceci étant, moi ce que je dis, il y a une justice en France qui doit être de plus en plus indépendante, impartiale, et elle avancera. Sincèrement, je ne sais pas où en est l'affaire,
non, mais
entre guillemets, Guérini.
Au-delà, l'affaire Guérini date de plus longtemps que 3 mois. Vous dites que ce monsieur devrait démissionner?
Je pense qu'à un moment donné, ça peut porter tort, effectivement, à l'institution, au Conseil général. Oui, il devrait démissionner. Ouais.
Mmh. Vous comprenez l'attitude d'une de vos collègues de parti, d'ailleurs, Mme Wisniewski, qui a été assez dure et qui, envers un candidat socialiste, Christophe Masse, par exemple?
En refusant d'appeler à voter pour lui?
Ouais, ça, moi, je trouve que ça pose question, parce qu'à l'arrivée, on se retrouve avec Valérie Boyer, qui n'est pas la plus humaniste des candidates de la droite UMP. Donc oui, ça pose question, mais ça pose surtout question au Parti Socialiste à avancer et à faire en sorte qu'ils se projettent dans le 21e siècle, et notamment j'y reviens sur cette charte anticorps. Finalement, c'est quoi? C'est qu'un engagement vis-à-vis des citoyens. Donc oui, moi je pense qu'il y a encore à travailler auprès des socialistes et de leur dire on peut avancer dans une politique moderne. Et je comprends que...
En parlant de transparence, oui. François-Michel Lambert, vous allez gagner combien en tant que député?
Je vous promets de vous donner cette réponse par écrit. J'avoue que c'était vraiment le cadet de mes soucis quand je suis arrivé à Paris.
Vous ne le savez pas?
Je crois que ça sera... après, il y a un reversement au niveau du parti.
Je crois que c'est 6 000 euros. Hein.
Non, mais il y a un reversement... 5 000 et quelques. Voilà, il y a un reversement au niveau du parti qu'il ne faut surtout pas oublier.
De combien?
Je ne sais pas, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, qui sera un montant à 4 chiffres. Hein. Donc, déjà, c'est clair.
Vous n'allez pas être à 3 chiffres quand même, non? Parce que votre salaire, vous, est de 4 chiffres, mais, et même très élevé.
Mais ceci étant, moi, je veux être très, très clair. À peine arrivé à Paris, j'ai demandé le numéro de téléphone du cabinet du ministre Arnaud Montebourg pour échanger immédiatement sur l'enjeu dont on a parlé tout à l'heure, l'usine d'alumine Pechiney. 10 minutes après, j'avais ce numéro, je téléphonais auprès de son conseiller spécial pour que l'on échange et que l'on ait une vision partagée de cet enjeu. Cette vision, c'est qu'il a confiance, et moi aussi d'une certaine manière, dans le projet qui est proposé, même si je pense qu'il pourrait avoir plus d'ambition, mais qu'il reste extrêmement vigilant et qu'il rencontrait les nouveaux patrons, la société HIG, le fonds d'investissement HIG. Voilà, moi, la première chose que j'ai faite, c'est parce que dans les bars, je suis au bord des terrains de foot avec des gens qui sont dans cette usine. Alors, c'est pas combien je vais gagner qui m'intéresse, mais c'est plutôt de pouvoir continuer à rentrer dans le bar ou aller au bord des terrains de foot et discuter avec eux.
Je vous pose la question parce qu'elle est légitime. Beaucoup de gens gagnent très peu d'argent. Beaucoup de gens disent que finalement, 577 députés qui gagnent énormément d'argent, c'est peut-être pas le moment. Vous seriez pour le fait de diminuer, comme l'ont fait les ministres, le salaire des députés?
Je serais surtout pour qu'avant de les diminuer, que ce sont tous les avantages qu'il peut y avoir, notamment au niveau de la retraite, etc., qui sont à reprendre, parce que il y a toujours une face cachée. Donc regardons aussi de ce côté-là.
D'accord. On ne l'a pas dit dans votre biographie, mais vous avez été suppléant, il me semble, de Roland Povinelli.
C'est vrai.
Voilà, je voulais vérifier avec vous. On a affaire à un personnage là, qui ne respire pas la rénovation politique. Il est le faire de la politique autrement. Je pense à sa politique, par exemple, en matière de logement social à Allo, assez controversée.
Povinelli, qui a lui-même été suppléant de Bernard Tapie.
Oui.
Dans lequel vous siège que Bernard Tapie a occupé avant vous. La question derrière dans quelle mesure vous sentez en rupture ou en filiation avec le personnel politique local et les pratiques
parce qu'on vous sent très prudent quand même vis-à-vis de Guérini, vis-à-vis de Christophe Masse, vous ne condamnez pas, vous êtes assez... sur tous les sujets, vous êtes très très prudent quand même, y compris celui-ci.
Pour revenir sur Guérini, moi je pense que ça doit avancer, je le dis clairement. Sur Christophe Masse, j'ai pas, et on va encore croire que c'est la langue de bois, mais je me suis concentré sur ma circo, donc j'ai pas suivi ce qui s'est passé par rapport à Christophe Masse, Laurence Wisniewski, mais il y a nécessité, et je le dis à Christophe, aussi de s'engager dans une voie. Quand je dis plus moderne, c'est plus de transparence auprès de... la transparence, peut-être qu'il la vit au fond de lui, mais il ne sait pas la traduire auprès de l'électeur. C'est ça que je veux dire. Pour ce qui est de votre question par rapport à Roland Povinelli, tout d'abord, je ne crois pas qu'on puisse faire quelques filiations entre Bernard Tapie, Roland Povinelli, François-Michel Lambert. Je crois savoir que Roland Povinelli est en rupture très très forte avec Bernard Tapie. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, comme une grande partie du Parti Socialiste et même de la gauche ont suivi Bernard Tapie qu'aujourd'hui on doit leur porter indéfiniment un lien avec Bernard Tapie, ça c'est clair.
La question est sans arrière-pensée, c'est très clair. On a peut-être un tropisme marseillais, mais par exemple Sébastien Barle qui a aussi je crois le titre de porte-parole régionale d'Europe Écologie, enfin vous êtes dans la même maison, insiste beaucoup sur la nécessité du Parti Socialiste dans les Bouches-du-Rhône à se rénover et dit que c'est un élément clé pour conditionner la qualité des rapports des écolos et des socialistes dans le travail commun qui peut se faire ou ne pas se faire. Est-ce que vous êtes de plein pied avec cette approche-là plus prudent ou plus à l'aise finalement avec les socialistes avec lesquels vous pouvez travailler sur votre territoire.
Dans votre question, vous avez deux réponses. Évidemment. Le Parti socialiste est en train de se rénover, de rentrer, je le dis, je le redis, dans une approche nouvelle de lien avec le citoyen, etc., et dans sa façon dans sa pratique. Mais je n'oublie jamais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont derrière. Et moi, quand je rencontre certains hommes et certaines femmes qui sont élus locaux, et je pense notamment à Danielle Garcia, qui est vice-présidente du Conseil général et qui est maire de Auriol, eh bien, travailler avec elle par rapport à différents enjeux locaux et des échanges et avoir une vision identique sur les enjeux locaux, il n'y a pas de difficulté. Donc je crois que c'est les hommes et les femmes qui sont en place peuvent, s'ils avancent et s'ils clarifient, continuer à être les représentants d'un parti socialiste plus fort, plus frais, je dirais, oui, c'est le mot aussi.
Dans les Bouches-du-Rhône. En parlant de fraîcheur, Sylvie Andrieux, par exemple, qui vient d'être élue députée, qui est une de vos collègues, vous lui dites qu'il faut qu'elle se rafraîchisse davantage et qu'elle démissionne ou...
Je ne vais pas aller sur ce type d'étymologie. Je dirais que Sylvie Andrieux, à un moment donné, à contrario, dessert cette marche en avant qu'a le Parti Socialiste dans les Bouches-du-Rhône avec l'arrivée de Jean-Pierre Mignard ou d'Olivier Ferrand ou même des hommes et des femmes ici comme Marie-Arlette Carlotti qui montrent que l'on peut avancer. Et parce que Marseille, c'est quand même une ville qui a une puissance économique, une puissance sociale assez rare, a besoin très vite, malheureusement on devra attendre 2014, mais très vite, de sortir du système de Godin et rentrer dans un système d'une gauche, moi j'appelle ça la gauche multicolore, où la diversité est présente et vraiment pense au fonctionnement local.
Michel Guéraud.
Revenons à Gardanne pour finir, l'émission va bientôt se terminer. Là, vous êtes confronté, vous siégez dans l'opposition, à un communisme municipal un peu sur la fin. Tout à l'heure, je parlais de la Havane, donc peut-être un
fidèle castrant local, oui.
Mais bon, voilà, avec un maire âgé qui est au pouvoir depuis longtemps, des pratiques très, très instituées, ça ne se passe pas toujours très bien, les discussions dans l'enceinte du conseil municipal. Alors. Il faut là du renouveau aussi. Le renouveau, c'est vous, peut-être ?
Le renouveau, ce n'est pas moi. Jamais, ça ne peut être une personne. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. On stigmatise autour d'une personne pour signifier qu'un parti ou qu'un groupe serait la même chose que cette personne. De la même façon, le renouveau, ça n'est pas une personne, moi en l'occurrence, mais tous ceux qui sont en souhait d'une nouvelle façon de faire la politique à Gardanne. Après, Roger Mailly, que je ne comparerai pas à Fidel Castro, loin de là. Roger Mailly et son équipe municipale, où ces quelques fidèles ont une façon d'aborder les projets de ville et l'avenir, qui me semble complètement désuet. Je crois qu'ils ont oublié que la mine a fermé, qu'aujourd'hui il faut avancer dans une nouvelle façon de développer l'économie, mais aussi de développer l'urbain. Et ça, c'est le projet que l'on portera, qu'on portera de façon ouverte, toujours pareil, dans la plus grande diversité.
Vous ne serez pas candidat pour 2014 à Gardanne ?
Je serai sur la liste en 2014, mais je ne serai pas le maire.
Serez confronté à Roger Mailly, candidat communiste ou Front de Gauche, on ne sait pas d'ici là.
Je ne sais pas s'il sera candidat en 2014. Par contre, ce que je sais, c'est que d'abord par le cumul des mandats, et ça c'est une valeur profonde, il est hors de question que je souhaite, que je demande à être le maire de Gardanne, et qu'il y a des gens, des hommes et des femmes de valeur à Gardanne, qui sont tout à fait en capacité de prendre les commandes de cette ville, et je préfère être au service de toute une équipe, la plus large possible, donc avec des communistes s'ils le souhaitent, pour un nouveau Gardanne, un renouveau de Gardanne.
Michel ?
À Aubagne, ça se passe moins bien. Il y a un député UMP qui semble s'ancrer. C'est pas le sort que... vous pensez que vous pouvez incarner avec l'avenir de la gauche dans ce territoire ? Vous ou un collectif ?
Oui, collectif. J'ai préféré la fin de votre question. Je ne suis pas l'homme providentiel. On revient sur ces présidentielles.
Vous avez dû souffrir
c'est
quand
fini.
Même avec votre photo sur l'affiche et votre nom durant la législative. Vous ne parlez qu'avec le « nous hein, », jamais le « moi ».
Sur le fait que j'avais ma photo sur une affiche et mon nom en gros,
oui,
ça c'est, si vous voulez aborder l'humain que je suis, oui, je trouve que il faut pas voir à travers un seul homme, l'homme providentiel pour moi n'existe pas et je ne suis pas plus homme providentiel que d'autres, je suis juste un catalyseur qui permet à un collectif de se mettre en marche et de proposer une alternative.
C'était donc François-Michel Lambert, le non homme providentiel, mais en tout cas nouveau député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Michel Guéroux, c'est la fin de la saison pour ce Ravi. L'année prochaine ?
L'année prochaine, on sera toujours là. Et puis, plus que jamais, on a besoin d'abonnés et ça vaut la peine. Et on vous prépare plein de choses. Donc,
et possibilité surtout de s'abonner à travers le site www.leravi.org. Allez, excellent été à toutes et à tous. Bye.